L'émission d'info locale.
Brest.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale de Radio U. Au programme aujourd'hui, une rediffusion de l'émission que nous avons enregistrée jeudi dernier à la Fac de Lettres et Sciences Humaines de l'UBO.
Radio U, Radio U, 101.fm à Brest.
Bonjour et bienvenue sur Radio U et Transistor, deux radios qui sont aussi des associations, donc qui font partie de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et tout est là, cette émission est réalisée à l'occasion des rencontres du RIU-ESS, Réseau Interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire, encore ces trois lettres ESS. Nous sommes à la Fac de Lettres et Sciences Humaines de Brest. C'est l'endroit parfait pour débroussailler ce vaste sujet. Nos invités sont des spécialistes de cette autre économie, pas très bien connue, un peu mystérieuse. Notre mission sera d'abord de vous l'expliquer, de vous définir tous ces sigles qui peuvent effrayer. On verra aussi ce qu'elle peut avoir d'intéressant, cette ESS, ou bien ses faiblesses, et quel peut être son avenir, puisque c'est le sujet de ces 25e rencontres du RIU-ESS, 3 jours à Brest pour imaginez demain, avec cette interrogation, l'économie sociale et solidaire, actrice de futurs possibles et désirables. Je suis Véronique Museau, la journaliste de Transistor, et je cède la parole à Gwenlande Leroux, qui est coprésident de Radio U.
Bonjour Véronique et bonjour à tous. Avec nous sur ce plateau radio, Michel Pierre Gézéquel, vous êtes président de la CRES de Bretagne. Vous êtes donc un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Avec le micro, merci. Mélène Cervera, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Lorraine et vous travaillez au sein du TETRAS, le laboratoire des territoires travail, âge, santé. Vous abordez l'ESS sous deux axes, celui du vivant et celui de ce que vous appelez le tournant entrepreneurial, on y reviendra. Et puis surtout, vous contribuez à défendre, démocratiser l'ESS à travers un collectif, le collectif d'animation et de gestion du RIE 2S. Et puis Vincent Lhuillier, vous êtes économiste, vous travaillez également au TETRAS. Avec Melaine, vous avez co-dirigé un ouvrage qui est paru tout récemment cette année, intitulé « Le défi politique de l'économie sociale et solidaire » aux éditions RS. Et enfin, Lauriane Fauvet, vous êtes doctorante ici même à l'UBO. Vous avez été chargée de mobilité durable et inclusive et vous cherchez à résoudre cette question du vieillissement à travers un projet d'autopartage de véhicules entre particuliers. Peut-être pour commencer, une question, parce que ce qui semble vous réunir les uns et les autres, c'est cette préoccupation de l'âge. Pourquoi c'est une préoccupation majeure pour vous? Qu'est-ce que ça connecte comme enjeux sociaux, éthiques, peut-être? Oui, Lauriane.
Bonjour. En fait, la préoccupation de l'âge, il y en a plusieurs. Déjà, on est sur une démographie vieillissante qui va en augmentant, notamment dans les zones rurales. Le vieillissement amène aussi à un moment à être un peu moins mobile. Alors je dis un peu moins parce que tout le monde ne vieillit pas à la même vitesse, il n'y a pas vraiment de définition, enfin il y a plein de définitions sur le vieillissement, mais tout le monde ne vieillit pas pareil et tout le monde n'a pas les mêmes capacités de mobilité. Et en fait ça commence à devenir un problème avec une démographie vieillissante, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se retrouver sans mobilité et donc isolées socialement. On voit des seniors qui renoncent à la santé, en fait, parce qu'ils n'ont aucun moyen d'aller jusque chez le médecin. Et donc voilà un peu cet intérêt, en tout cas pour cet âge-là. Et puis parce que moi, je vois aussi le vieillissement comme des fois une opportunité, ça on en reparlera peut-être après, mais une opportunité pour la nouvelle génération, parce qu'ils peuvent être un apport à la nouvelle génération de plein de manières différentes.
Avant de commencer, un peu de pédagogie, parce qu'on parle beaucoup d'acronymes, mais on va peut-être essayer d'expliciter tout ça avec Véronique.
Déjà, je voulais vous demander tout simplement, depuis quand est-ce qu'on emploie les sigles, le sigle ESS et toute sa famille?
C'est dans un rapport
début 2000, hein, de 2001, d'Alain Lipietz, hein, que le terme économie sociale et solidaire a été porté. Donc ça fait donc aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années. Mais l'économie sociale et solidaire, si on s'en tient à une définition que nous retenons, c'est quand même l'alliance d'une économie sociale et d'une économie solidaire. Et c'est une catégorie qui est aujourd'hui assez hétérogène, mais qui désigne un mouvement social et un mouvement politique qui vise à démocratiser l'économie.
Et Vincent L'Huillier, en complément, vision de l'économiste ?
Oui, peut-être même une vision plutôt historique, parce que je suis économiste, plutôt socio-économiste, mais j'ai aussi fait une thèse d'histoire de la pensée économique. Et c'est vrai que l'émergence de l'économie sociale se positionne au cours du 19e siècle, en lien avec les trois grands moments révolutionnaires qu'a connu la France. On retient souvent la révolution de 89, mais il y a aussi celle de 1830 et celle de 1848, sans oublier les moments d'insurrection, notamment à Paris pendant la Commune. Et le terme se forge de manière assez paradoxale et ambiguë auprès des économistes. Par exemple, Léon Valras parle d'études d'économie sociale, mais il désigne des choses qui sont assez éloignées de ce qu'on entend aujourd'hui par l'économie sociale. Pour lui, l'économie sociale, c'est la réforme de l'impôt. Alors qu'aujourd'hui, on désigne par économie sociale les statuts qui apparaîtront donc à la fin de cette grande période de gestation, avec la reconnaissance du statut associatif en 1901, la reconnaissance progressive des statuts coopératifs et la reconnaissance des statuts mutualistes. Ensuite, il y a un tunnel. On reparle d'économie sociale en France uniquement à la fin des années 70, quand un certain nombre d'acteurs ont décidé de se structurer collectivement. D'abord, les acteurs mutualistes et coopératifs, et un peu plus tardivement les acteurs associatifs qui vont rejoindre le mouvement. Et à ce moment-là, on va utiliser ce terme économie sociale. Alors le terme ESS, lui, apparaît encore un peu plus tard, après une première phase de critique assez directe et virulente de cette économie sociale et de son identité, avec l'apparition du mouvement de l'économie solidaire au cours des années 80 et 90. Et assez étonnamment, alors que c'est un secrétariat d'État à l'économie solidaire qui s'institue à l'époque, en 2000, avec Guy Ascoët, le secrétariat s'appelle bien « À l'économie solidaire ». Mais on va commencer à parler de ESS à ce moment-là, en enterrant finalement ce conflit latent entre ces deux mouvements, ces deux tendances qui continuent aujourd'hui à représenter la diversité de ce mouvement de l'économie sociale et solidaire. Et j'ajouterais simplement que le réseau a joué aussi un rôle, puisqu'il s'est aussi progressivement mis en place au début des années 2000, et il a tout de suite choisi l'appellation réseau interuniversitaire à l'économie sociale et solidaire. Et les formations qui se sont développées dans les universités étaient des formations de master en ESS. Donc le réseau a aussi participé à la légitimation de cet usage du terme ESS, et avec la mise en place concomitamment de politiques locales de soutien, de développement de l'ESS. Et là, on a commencé à parler véritablement d'ESS.
Et Michel Pierre-Gézéquel, la CRES, la chambre régionale de l'ESS, elle date de quand ?
Alors, les chambres régionales de l'ESS datent de, comment dire, des années 95, voilà. Donc, la chambre régionale, elle fédère les acteurs de l'économie sociale et solidaire, elle accompagne les entreprises, elle assure aussi le plaidoyer, le portage politique du projet. Voilà, les CRES, donc il y en a une dans chaque région. La particularité en Bretagne, c'est que on a aussi des pôles de développement de l'économie sociale et solidaire qui travaillent aux côtés de la CRES. Il y en a 18 en Bretagne, et c'est vraiment une singularité de la Bretagne. On ne retrouve pas cette structuration ailleurs. Et c'est depuis début 2026, ces pôles sont aussi regroupés en groupements, en 5 groupements régionaux. Donc on a cette structuration, pôle de développement de l'économie sociale et solidaire, groupements régionaux, la chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Ensuite, l'ensemble des CRES sont adhérentes à ESS France, qui est la chambre nationale de l'économie sociale et solidaire. Voilà donc un peu le réseau, le maillage structuré de l'économie sociale et solidaire en France.
Et puis il y a eu la dernière étape, enfin là oui, quasiment, c'est la loi Hamon, c'est ça ? Qui veut me parler de la loi Hamon et me dire ce qu'elle a changé ? Mélène Cervera, non ? Vincent L'Huillier ? Oui. Vincent L'Huillier.
La loi Hamon, c'est encore une étape supplémentaire dans la reconnaissance institutionnelle de ce secteur, bien que ce soit difficile de le désigner par un secteur, c'est plutôt une dynamique, on va dire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein, d'ailleurs, il y a aujourd'hui un certain nombre d'élus qui voudraient voir évoluer cette loi, la rendre encore un peu plus inclusive, puisque ce qui la caractérise, c'est probablement cette ouverture finalement du secteur au-delà des statuts juridiques classiques, mutuels, associations, coopératives, auxquels s'est ajouté le statut des fondations qui désormais est aussi reconnu comme faisant partie de l'ESS. Elle a permis à des sociétés commerciales qui n'avaient pas les statuts juridiques, notamment suite à des pressions d'un certain nombre d'acteurs dans le champ de l'insertion par activité économique qui n'avaient pas ce statut juridique mais qui défendaient l'idée qu'après tout, eux aussi pouvaient être reconnus comme faisant partie de cette famille un peu particulière de développement économique. La loi a intégré ces sociétés commerciales qui doivent, en échange, respecter l'identité de l'ESS et qui doivent s'inscrire finalement juridiquement en tant que société commerciale ayant un projet autre que le partage du profit et donc reconnaître finalement cette spécificité de la dynamique économique. Et désormais, on peut aussi demander un agrément ESUS si on respecte un certain nombre de conditions supplémentaires liées à l'utilité sociale et notamment cette utilité sociale ne peut pas être simplement dans le champ du développement écologique mais elle doit aussi être avec une dimension de correction d'inégalité ou de lutte contre les exclusions.
En tout cas, pour revenir à la définition de l'économie sociale et solidaire, de ce qu'on comprend avec ce que vous avez dit, c'est que elle fédère des structures qui ont des natures, des identités différentes et qui peut-être ne gagneraient justement à travailler ensemble, donc coopératives, associations, fondations, mutuelles. L'idée, c'est, parce que vous avez commencé à parler de réseau, de faire réseau, l'idée c'est de faire de cette hétérogénéité justement une force pour changer la façon de consommer, de produire.
Je pense qu'il ne faut pas non plus s'y tromper. Hein. L'économie sociale et solidaire est un ensemble très hétérogène, avec aussi des points de tension, de friction. Même si le conflit fait partie de la démocratie, il faut aussi, à un moment donné, ce qu'on a essayé de montrer dans la plupart du travail en commun avec mon collègue, hein, c'est qu'il faut aussi faire des choix politiques et qui sont assez différents. Donc, en effet, ça peut être de faire des ponts, mais à la fois, si vous voulez, entre une initiative citoyenne écologique qui va faire de la sensibilisation à des bonnes pratiques environnementales ou qui va essayer de dénicher des pratiques en soi écologiques dans des milieux plus populaires et des mastodontes coopératifs de l'économie sociale qui produisent des algues vertes en baie de Saint-Brieuc, par exemple, on est sur des visions du monde quand même qui sont assez opposées. Hein, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a différentes manières de voir l'ESS dont on peut aussi discuter et débattre. Hein. Une manière, c'est en effet d'avoir cette approche statutaire qui est reprise dans la loi, mais la loi va plus loin puisque la loi de 2014, elle va définir l'ESS comme un mode d'entreprendre et un mode de développement économique. Hein, c'est dans son article premier. Et nous, avec mon collègue, on a essayé plutôt de définir l'économie sociale et solidaire comme un ensemble finalement de mondes ou de principes de logique d'action collective qui vont s'articuler et entre lesquels il y a des points de tension. Donc je pourrais identifier ces différents mondes. Il y a des questions qui touchent vraiment aux politiques sociales et aux questions sociales, médico-sociales ou du handicap. Il y a des questions du côté de la citoyenneté et des initiatives citoyennes de transformation. Il y a des mondes, y compris qui vont concerner l'insertion, d'une certaine manière. Et puis, il y a un autre monde aujourd'hui qui est celui du monde de l'entrepreneuriat, qui va nous faire penser que nous allons pouvoir résoudre des problèmes sociaux par l'entreprise. Et entre ces différents mondes, finalement, va y avoir des points de friction. Et il faut pas nier. Alors, selon les collectivités territoriales et les politiques publiques nationales, ça va dépendre des périodes historiques, mais qu'il y a une invisibilisation, en fait, des initiatives transformatives porté par les citoyens organisés et une mise en avant davantage, ce qu'on disait à un moment donné, de l'axe entrepreneurial.
Ben justement, Michel Piaget-Ezekiel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, comment vous voyez le rapport entre le monde entrepreneurial et non entrepreneurial de l'ESS?
Ben, on essaye, nous, en tout cas, dans les chambres régionales, de fédérer un petit peu tout ce monde-là. Il y a effectivement le souhait de ne pas résumer l'économie sociale et solidaire à ce monde entrepreneurial. Donc voilà, et on est attaché aussi à ce que notamment le phénomène associatif va apporter en termes de lien social, d'agora aussi, c'est-à-dire d'espace public de débat, hein, voilà, qui permet de définir une opinion collective, qui permet qui sont des lieux de débat public en fait, hein, voilà. Donc on est attaché à ce que, à côté de cette dimension entrepreneuriale, il y a aussi cette dimension solidaire qui vive.
On parle de la question de l'échelle. De quelle échelle parle-t-on? Vous, Lauriane Fauvet, avec votre projet d'autopartage entre particuliers, on voit bien que l'échelle, elle peut être extrêmement locale. Elle peut se jouer à l'échelle d'un quartier, d'un bâtiment. C'est là aussi que ça se joue l'économie sociale et solidaire, en dehors de toute structure, au fond.
En fait, c'est justement un peu la question. Enfin, sur un système d'autopartage entre particuliers, on est sur du privé en fait, et c'est là où, enfin, je suis venue aujourd'hui ceci pour m'interroger sur à quel moment on peut faire rentrer ça dans l'ESS ou pas. Et en effet, on est sur quelque chose de très local, de très ancré dans le territoire. On peut pas faire de l'autopartage avec quelqu'un qui habite à 100 km de chez soi. En fait, c'est, je dirais même 20 km, c'est compliqué. Et donc c'est développer des systèmes qui sont proches. Et est-ce que ça peut être considéré comme un moment ou un autre comme un modèle ESS ou pas? Et parce qu'il y a aussi tout un écosystème qui tourne autour. Si je prends l'exemple de, enfin, l'autopartage entre particuliers, c'est un changement de comportement, parce que ça veut dire utiliser moins sa voiture, ce qui signifie utiliser d'autres mobilités aussi. Et en fait, le changement de comportement, il y a des personnes qui arrivent toutes seules et il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas toutes seules. Et encore moins quand on a plus de 60 ans, en fait. Donc là, il y a aussi besoin d'accompagnement. Alors, pas d'accompagnement dans le style tu fais comme ça d'un côté ascendant, mais plutôt un accompagnement pour expliquer ce qui peut exister, ce qu'il y a comme ressources, comment on peut développer ça. Et peut-être que là, ces accompagnements rentrent peut-être plus dans le champ de l'ESS que l'autopartage même, en fait. Ça, c'est tout un questionnement. Après, juste pour info, je suis qu'en début de thèse, donc que en début de recherche. Je suis pas encore super claire sur mes trucs. Et enfin voilà, c'est vraiment un questionnement.
Radio U vous suit de A à U.
Nous sommes à la Fac de Lettres et Sciences Humaines de Brest et Radio U et Transistor co-animent cette émission enregistrée à l'occasion des 25e rencontres du RIU-ESS sur le thème « Imaginez demain l'économie sociale et solidaire, actrice de futurs possibles et désirables ». Avec nous autour de ce plateau radio, il y a Michel-Pierre Gézéquel qui est président de la Chambre régionale la CRES Bretagne, Mélène Cervera qui est sociologue, Vincent L'Huillier qui est économiste, Lauriane Fauvet qui est doctorante. Alors on a commencé à définir l'ESS, puis on voit que c'est pas si simple finalement. Et justement, puisqu'on est au RIU-ESS, la recherche, à quels aspects de l'ESS elle s'intéresse? Vous n'allez pas nous faire tout un résumé des rencontres, mais est-ce que vous pouvez nous donner des pistes? Mélène Cervera, ouais? Non? Vincent L'Huillier? Vous battez pas?
En fait, c'est très varié, hein. Chacun a ses calendriers de recherche. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la petite enfance, par exemple, sur les crèches. Actuellement, on travaille sur la structuration et les tendances à la mise en concurrence des acteurs dans le secteur de l'accueil des personnes âgées et des jeunes enfants. On a travaillé sur les modèles socio-économiques associatifs dans le champ des tiers-lieux, dans le champ des centres sociaux et de l'insertion par l'activité économique. On a fait cette recherche pour le Luxembourg sur le tournant entrepreneurial de l'ESS au Luxembourg. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une recherche assez importante, puisque le ministre luxembourgeois qui a porté cette réforme de l'ESS au Luxembourg, qui a institué des sociétés traité d'impact sociétal et qui a défini l'ESS au Luxembourg, d'ailleurs avec une loi qui ressemble à la loi française, mais avec justement des différences assez étonnantes. Et bah, ce ministre aujourd'hui, ou en tout cas il l'a été jusqu'à récemment, il est aussi le commissaire européen qui a porté le plan d'action de soutien à l'ESS au niveau européen. Et donc il nous semble que c'était important de voir ce qu'il avait fait au Luxembourg pour mieux comprendre le projet qui aujourd'hui semble fédérer finalement l'ensemble de ces politiques publiques qui soutiennent plutôt l'entrepreneuriat social que cette vision que nous on défend d'une ESS plus diverse. Hein.
C'est ça les différences dont vous parliez avec, entre le Luxembourg et la France.
Société d'impact sociétal, oui, c'est clairement l'idée de faire basculer l'ESS dans le champ de l'entrepreneuriat social à impact.
Et vous, Michel-Pierre Gézéquel, en tant qu'opérationnel de l'ESS, qu'est-ce qui vous intéresse dans la recherche? Quelles sont les recherches qui vous intéressent plus particulièrement?
Disons que nous, les acteurs, ont besoin de la recherche pour renforcer nos capacités collectives à agir. Hein. C'est de la construction aussi de connaissances que l'on peut faire dans différents domaines. Hein. C'est le regard extérieur aussi qui nous permet d'améliorer les pratiques. Voilà. Et puis enfin, c'est aussi la possibilité avec les chercheurs d'alimenter le plaidoyer et de mieux nous faire entendre aussi dans l'espace public. Quoi. Voilà. Donc le lien avec la recherche est essentiel pour les acteurs. Et d'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui, au sein du RIESS, en effet, l'Assemblée Générale de la CRES vient témoigner un petit peu de cette volonté de rapprocher chercheurs et acteurs.
Et depuis que les rencontres existent, là, c'est quand même les 25e, donc il y a peut-être quelque chose qui se dessine ou non. C'est toujours différent à chaque fois, Madame Servera.
Alors, le réseau interuniversitaire à l'économie sociale et solidaire est né en 2001. Hein, donc, en effet, 25e rencontre. Ce sont des rencontres qui se déroulent dans chaque fois, qui sont décidées bien en amont, un an ou deux, dans quelle ville de France se dérouleront ces rencontres. Le réseau, pendant ses 15 premières années d'existence, était un réseau assez informel, finalement, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Alors, j'insiste, de disciplines différentes en sciences humaines et sociales, qui se sont retrouvés autour de cette thématique et qui, d'une certaine manière, étant donné aussi l'évolution du monde de la recherche, n'était pas pris dans le tournant finalement gestionnaire et technocratique qu'a pris la recherche aussi et les universités depuis une vingtaine d'années. Donc ce réseau, c'était aussi une manière de pouvoir faire de la recherche et du réseau sans les pesanteurs des orientations néolibérales de la recherche. Ce réseau, c'était également fédérer des formations à l'université qui forment des étudiants à un niveau master à l'économie sociale et solidaire dans sa diversité. Et donc, ce sont les porteurs de ces formations qui se sont aussi fédérés dans ce réseau pour échanger sur leurs évolutions. Et en 2015, ce réseau s'est formalisé en association, donc finalement ça fait une dizaine d'années, pour résister finalement à l'invisibilisation de l'économie sociale et solidaire à l'université, puisque à cette époque, Carole Delga, qui est actuellement présidente de la région Occitanie, avait dans une interview dans un quotidien du soir assez connu, avait exprimé le fait qu'il serait temps quand même que les écoles de commerce, elles font un très bon travail sur l'économie sociale et solidaire, elles forment les étudiants au social business, et il serait temps quand même que les universités s'y mettent, quoi, à faire un peu de l'ESS. Donc on leur a répondu, enfin le RIES a répondu dans une tribune interposée, il me semble, dans le même journal du soir, pour dire, écoutez, Madame Delga, on veut quand même vous informer que ça fait 15 ans que nous portons des formations sur l'économie sociale et solidaire. Et depuis, il y a eu, évidemment, comme toute la vie sociale dans le monde entier, ça a été percuté par l'épidémie de la Covid, mais depuis, il y a une montée en puissance, en fait, du réseau, hein, à l'économie sociale et solidaire, avec des rencontres qui peuvent aller jusqu'à 400 participants et qui réunissent des chercheurs. Il y a des dialogues avec les réseaux internationaux, des réseaux au niveau européen, des réseaux sud-américains, des réseaux canadiens. Peut-être qu'on n'a pas encore assez l'Asie. Encore que on a des collègues qui ont travaillé sur la Corée du Sud. Et les thématiques, en fait, vont se décider avec les équipes locales d'organisation. Là, à Brest, on essaye d'imaginer demain, ce qui n'est pas complètement simple. L'année dernière, on avait parlé de l'ESS au travail. L'année d'avant, on avait fêté les 10 ans de la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Donc, plusieurs facettes, disons, de cette catégorie sont étudiées tous les ans.
Et vous parlez à l'instant d'orientation néolibérale, j'ai retenu ce terme de l'université en France. L'économie sociale et solidaire, par essence, par définition, c'est celle qui s'oppose au modèle dominant capitaliste, pour ne pas employer ce vocabulaire marxiste, je ne sais pas si c'est votre grille de lecture, mais elle est condamnée quelque part, l'économie sociale et solidaire, à rester dans l'ombre de ce modèle dominant, ou est-ce qu'elle a la potentialité peut-être de le dépasser ou de le surpasser, je ne sais pas qui veut commencer à répondre à cette question.
En tout cas, pour nous, on a une ambition d'en faire la norme de l'économie. Voilà, c'est un peu ce pourquoi on est engagé, on milite. Maintenant, on voit aussi comment on a rappelé ça là dans les journées aujourd'hui. Elle est souvent perçue comme une économie de l'assistance avec des financements publics importants, etc. Or, la Cour des comptes a rendu un rapport l'an dernier qui dément ce point de vue-là, puisque seulement 7% des aides publiques aux entreprises sont versées aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, alors qu'on représente 14% de l'emploi. Donc c'est loin d'être une économie subventionnée, et au contraire, on aurait besoin un peu plus d'aides publiques pour la rendre, la développer encore un peu plus.
C'est une économie qui est porté par des valeurs, c'est ça aussi l'économie sociale et solidaire, c'est dans l'acronyme. Quelles sont-elles ces valeurs? On a commencé à le dire, mais est-ce que vous pouvez les rappeler? Qu'est-ce qui fait sens au fond dans l'économie sociale et solidaire plus que dans l'économie capitaliste, pour reprendre ce terme, ou néolibérale?
D'abord, enfin, je peux commencer, mais il y a des pratiques de coopération déjà. Au-delà des valeurs, il y a des pratiques aussi, hein, qui sont des pratiques de coopération. Il y a des valeurs de solidarité, de réciprocité. Des engagements qui sont ceux d'une gouvernance démocratique, par exemple, dans les organisations. Il y a l'engagement aussi d'une lucrativité limitée. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui définissent aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Je voudrais dire un mot sur cet aspect. C'est vrai que, en tout cas, dans l'identité que défendent ces acteurs qui se regroupent à la fin au cours des années 80, il y a quand même un certain nombre de points qui sont quand même clés. Donc il y a effectivement une sorte de limitation dans la volonté d'accumuler les richesses. Donc on a pour un certain nombre d'acteurs aucun actionnaire, donc il n'y a même pas à se poser la question de la redistribution des surplus de l'activité économique. Et pour les coopératives, il y a des règles strictes qui limite cette possibilité de s'enrichir au travers de l'investissement dans ces initiatives, et voire même il est prévu une sorte d'appropriation collective de cet enrichissement. Donc c'est aussi une dimension collective forte, hein, dans les coopératives. 20% des excédents ne peuvent plus être appropriés, hein. Et aujourd'hui, donc ça c'est une des premières grandes valeurs, je crois, hein, c'est l'idée l'économie ce n'est pas l'accumulation infinie des richesses et de l'enrichissement. Et puis une deuxième valeur qui est aussi assez centrale, mais qui doit être réinterrogée en permanence, c'est la valeur de la démocratie, en fait, dans l'organisation économique. Comment on peut collectivement prendre des décisions qui concernent notre vie quotidienne économique. À travers ces organisations, il y a des règles prévues de participation démocratique et qui ne sont pas liées à la quantité d'investissement faite dans l'entreprise, hein, ce qui est quand même aussi une différenciation forte. Maintenant, aujourd'hui, on voit que le monde se complique. Hein. Le monde se complique, y compris dans l'économie sociale. On voit apparaître des acteurs associatifs de grande taille qui génèrent des excédents assez importants et qui trouvent les moyens de se redistribuer de manière privative ces excédents, ce qui est quand même une difficulté assez centrale aujourd'hui qu'il faut affronter. Quant à la participation démocratique, elle est effectivement un des points sur lesquels l'économie solidaire au cours des années 80 va se positionner pour expliquer que cette participation démocratique est pour le moins affaiblie dans ces organisations qui se sont rassemblées autour de cette fédération, association, mutuelle, coopérative.
Ça rejoint peut-être votre future thèse, Lauriane Fauvet, la question démocratique, c'est à ça que vous allez vous intéresser, à votre avis, dans votre recherche ?
Alors oui, parce qu'en effet, l'autopartage entre particuliers, c'est une gouvernance assez démocratique, puisque même si on part au départ d'un propriétaire, on part d'un propriétaire, mais c'est pas parce qu'il est propriétaire qu'il va être le chef du collectif, en fait. Au contraire, c'est l'idée, c'est vraiment de partage. J'ai un véhicule, je le mets à disposition et on va tous gérer ensemble le véhicule, c'est-à-dire l'agenda, les réparations, les entretiens, de se rendre service. Et certains vont même plus loin sur des entretiens que j'ai eus où ils parlent de bah aujourd'hui je partage mon véhicule, mais j'aimerais bien demain partager aussi les autres objets que j'ai chez moi, par exemple ma tondeuse à gazon, par exemple ma perceuse que j'utilise deux fois dans l'année, qui se bousille à rester dans mon garage, en fait pourquoi je la mettrais pas aussi à disposition de ce même collectif, et que finalement tous ensemble on puisse gérer quelque chose. Et certaines personnes, pour justement faire face au problème d'assurance, parce que la voiture, il y a aussi le problème de l'assurance, c'est de se monter aussi en association, c'est-à-dire revendre la voiture à l'association ou acheter une voiture tous ensemble par le biais d'une association qu'ils auraient créée et qui devient la voiture en fait de tout le monde et qui va être gérée comme ça et qui va j'ai perdu mon idée. Pardon.
Non, mais on comprend qu'il faut faire preuve d'inventivité dans le concret de l'ESS. Parce que, en fait, c'est peut-être quand même une question qu'il faut aborder. C'est pourquoi elle reste une économie de niche. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a cette complexité dans la gouvernance, c'est difficile de travailler vraiment ensemble. Enfin, pour avoir pratiqué l'ESS, je sais que c'est difficile. Il y a toujours le PFH, hein, n'est-ce pas? Le putain de facteur humain. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Est-ce que vous pouvez l'avouer, le reconnaître? Vous l'avez mesuré peut-être? En tant que sociologue, oui, Mélène Cervera.
Mesurer peut-être pas, mais je m'inscrirai un peu en désaccord avec ce que vous venez d'affirmer, dans la mesure où il me semble que quand on regarde bien ce qui fait le tissu social des sociétés, c'est le principe d'association. Hein, si on en revient à ce qui fait le lien social, c'est bien le fait qu'on soit des individus associés et des individus liés. Donc ça, c'est philosophique, certes, mais c'est quand même la première chose. Et ensuite, c'est l'idée que l'extension, si vous voulez, du domaine du marché et la radicalisation de la marchandisation au fil des siècles a conduit finalement à satelliser d'une certaine manière cette association intrinsèque en fait au lien social qui fonde les pratiques d'économie sociale et solidaire. Et d'un autre côté, on a considéré de manière erronée, en fait, que les problèmes sociaux ou les problèmes de réponse aux besoins soient été satisfaits par l'extension du marché ou par la puissance publique. Et aujourd'hui, je pense que, sans parler de troisième voie, parce que c'est des formules complètement usées aujourd'hui, c'est cet imaginaire-là qui ne fait que penser entre marché et État, qui nous empêche de voir que l'économie sociale et solidaire est une piste pour rendre le monde plus souhaitable, plus respectueux, y compris dans le basculement écologique dans lequel on se situe, quoi.
Oui, donc une lueur de développement pour l'ESS. On va faire une pause musicale et on reviendra sur cette réflexion. Nous interpréter Blue Disco. Nous sommes à la Fac de Lettres et Sciences Humaines de Brest. Radio U et Transistor co-animent cette émission qui est enregistrée à l'occasion des 25e rencontres du RIUESS, réseau interuniversitaire de l'ESS. Le thème, c'est Imaginer demain l'économie sociale et solidaire, actrice de futurs possibles et désirables. Là, on arrive vraiment à cette question politique.
Oui, on voit bien qu'avec ce qu'on disait avant la pause musicale, qu'on commençait à rentrer dans une lecture quand même très politisée du monde. C'est très bien, probablement. Mais est-ce que contribuer à l'économie sociale et solidaire, c'est accepter quelque part de faire acte de militantisme? Forcément, c'est forcément un acte militant de contribuer à cette économie-là.
L'économie est un problème de citoyens. Les sciences économiques ont fait disparaître ce terme de politique qui leur était accolé traditionnellement. Pendant une période, il s'agissait même de la secte des économistes. Ensuite, on a parlé des sciences économiques. Entre-temps, on parlait d'économie politique et le terme politique a disparu, comme s'il n'y avait plus de débat à avoir sur comment organiser finalement nos sociétés pour répondre à nos besoins, comme le dit Karl Polanyi. Vous avez cité Marx, mais l'auteur qui, à mon avis, fait référence sur ces questions, c'est plutôt Karl Polanyi, qui repropose une définition alternative de ce que serait l'économie. L'économie, c'est les interactions entre les hommes et leur environnement pour satisfaire des besoins. Et quand on prend le recul historique qu'il prend, on voit que finalement, la réponse marchande des capitalistes est une curiosité historique. Elle se développe progressivement au cours du XVIIIe siècle et massivement au XIXe siècle. Pour lui-même, elle prend du recul avec le développement des réponses, d'ailleurs, plutôt assez problématiques des années 30, qui sont des réponses autoritaires. On substitue finalement à cette désocialisation que produit le marché et à ces crises sociales que produit cette organisation socio-économique. On substitue au marché un certain nombre de règles autoritaires qui menacent la démocratie. Hein. Et aujourd'hui, évidemment, la relecture qu'on peut faire de la situation, c'est qu'on retombe finalement dans une situation qui ressemble à celle-là. Et on voit bien que la réponse autoritaire risque aussi d'être la réponse si on ne conçoit pas que l'économie est en soi politique et socialisée, et qu'elle est une affaire de citoyens qui doivent eux-mêmes développer les réponses à leurs problèmes économiques, et puis qui doivent aussi avoir une réflexion sur cette économie qui ne doit pas être une affaire de scientifiques. Hein. Les économistes nous expliquent qu'il n'y a qu'eux qui savent ce que c'est que l'économie, et ça, je crois que tout le monde sait ce que c'est que l'économie assez concrètement.
Et Michel-Pierre Jézéquel, vous avez l'impression que les membres de la Chambre régionale de l'ESS sont des militants, ou finalement, est-ce que ça se normalise, on va dire ?
Non, il y a encore une forme de militantisme, effectivement. Hein, enfin, encore un peu plus aujourd'hui, puisque l'ESS est mise à mal là, en ce moment, hein, avec notamment des coupes budgétaires importantes dans le secteur, qui fait que effectivement, on a commencé nous à interroger nos membres, les membres de la CRES, sur un petit peu ce qu'ils attendaient, quel était leur point de vue aujourd'hui, et ils se disent fatigués, fragilisés, voilà, et donc. Forcément militants encore aujourd'hui pour défendre leur projet, quoi.
Essayer de leur redonner un peu de pêche. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'ESS en France, parce qu'on me disait dans l'oreillette que l'ESS est majoritaire dans le monde, mais pour que l'ESS devienne le modèle majoritaire en France, qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis, Vincent Luyer?
Déjà, il faudrait cesser de mettre en place des politiques publiques qui fragilisent l'ESS. Hein. On va commencer par là. Hein. Il s'agit, je prends le secteur de la petite enfance que je connais assez bien. On avait des réponses associatives qui s'étaient progressivement développées dans les années 80 avec une reconnaissance publique, avec des financements publics. Tout ça fonctionnait plutôt bien. Et au détour des années 2000, en 2005, on met en place ce crédit d'info famille et on favorise le développement d'une réponse capitaliste. Hein, et aujourd'hui, on arrive à une situation de crise, hein, comme dans les EHPAD, avec les scandales qu'on connaît sur l'accueil des jeunes enfants dans ces groupes capitalistes, notamment l'un d'entre eux qui a été particulièrement ciblé par le journaliste Victor Castanet. La réponse de la ministre, finalement, qui est impliquée dans ce mouvement qui a consisté à privilégier finalement cette réponse capitaliste, la réponse est oui, mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, c'est too big to fail. On ne peut plus revenir en arrière, c'est 20% des places collectives, alors qu'on voit aujourd'hui quand même un certain nombre d'acteurs qui défendent, eux, le point de vue qu'il faut réserver finalement ce domaine de service, la satisfaction de ses besoins en accueil de jeunes enfants, soit à des acteurs publics, soit à des acteurs de l'ESS, et certainement pas aux acteurs capitalistes.
Mélène Cervera, vous avez une idée ?
Évidemment, on a plein de rêves et d'utopies, mais bon, la situation est actuellement quand même dramatique. Alors, comment rester un petit peu, dramatique d'un point de vue en effet politique et de la crise climatique et des discriminations. Enfin, je passe et de politique sociale et de responsabilisation des personnes qui sont aidées socialement. Enfin, si je pense et si nous écoutent au président du Finistère, notamment du département du Finistère. On est quand même face à quelque chose d'assez important. Donc moi, je pense que déjà la tâche du chercheur, c'est pas ça va être de poser des questions plutôt que de donner des réponses, mais ça serait peut-être de ce qu'on essaie de développer avec mon camarade, c'est de repartir de communautés politiques réduites pour essayer de penser comment nous répondons à nos besoins. Et ici. Bon, il y a un débat qui traverse les anciens du réseau interuniversitaire de l'ESS, hein, mais l'idée, c'est aussi de voir de quoi nous dépendons, hein, certainement, et de décrire ces liens pour intégrer à la communauté politique l'ensemble du vivant, hein, y compris le non-humain, et décider ensemble au niveau de territoires qu'on pourrait, de manière optimiste, autogérer, pour pouvoir répondre ensemble et en commun, et en délibérant, c'est-à-dire que pour trouver une solution, en fait, il faut savoir s'opposer sans se massacrer. Hein, c'est un des piliers d'un des systèmes politiques souhaités qui s'appelait le convivialisme, qui avait été porté dès 2013, hein, et dont les quatre piliers, hein, sont un lien avec l'environnement et la nature, mais surtout la commune socialité et la commune humanité, un manifeste convivialiste de 2013 qui se base sur la pensée d'Illich et de l'économie politique, de l'écologie politique par ailleurs. Donc, je pense qu'il faudrait pouvoir repartir des besoins, redéfinir les besoins, mais on en parlait ces deux jours derniers dans des échanges informels, en fait, à l'heure de l'intelligence artificielle et du... Voilà, nos débats peuvent paraître un petit peu parfois hors sol. Or, ce qu'il s'agirait, en reprenant Bruno Latour, hein, c'est justement de réatterrir un petit peu et de se rattacher de nouveau au terrestre.
Et Lauriane Fauvet, une des difficultés aussi peut-être avec l'économie sociale et solidaire, c'est de rendre accessibles ces structures, ces solutions qui existent, même ces aides gouvernementales qui existent, mais que le grand public a peut-être des difficultés à connaître. Comment faire pour que le grand public s'en fasse une idée plus claire? Est-ce que c'est simplement à partir du moment où on en a un besoin réellement, qu'on s'y met, qu'on a un projet, qu'on va aller solliciter ces structures? Parce que vous me parliez de votre expérience personnelle, quand vous avez lancé ce projet, vous avez été voir une mission locale, un incubateur, donc ces solutions-là, elles existent, mais comment on y accède?
Alors oui, elles existent, et oui, elles sont difficiles, elles ne sont pas visibles. C'est ce que je vous expliquais il y a quelques années. J'étais sur un projet d'insertion professionnelle, et c'est ma conseillère Pôle Emploi en fait qui m'en a parlé. Et après, c'est ce dont on avait discuté en fait, c'est que j'estimais que c'était une très bonne conseillère, parce que dans la suite que j'ai vue, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là, en fait, de nous parler de ce qui est existant pour mettre des projets en place, en fait. Je sais qu'elle était, c'était aussi par son réseau à elle qu'elle connaissait ça et qu'elle m'a transmis l'existence du TAC 22, de l'incubateur, etc., pour pouvoir essayer de monter un projet qui était d'utilité sociale. Mais derrière ça, si on ne cherche pas un petit peu et si on n'est pas accompagné dans nos réflexions, on le devine pas. Et après, je sais que c'est un sujet qui se posait sur ces rencontres aujourd'hui. C'est les associations qui font de l'ESS, mais qui ne le savent pas, en fait, qui font partie de l'ESS.
Monsieur Jourdain, l'ESS, n'est-ce pas? Michel Pierre-Gézéquel, les gens qui sont arrivés jusqu'à la CRES, comment ils viennent d'où? Enfin, comment ils connaissaient, en fait, ce milieu-là?
Alors, en fait, bon, ça, c'est par les familles, souvent, les fédérations, souvent, que le lien se fait. Hein, donc, les unions, fédérations, je pense aux grandes mutuelles, je pense aux grandes associations, etc. Donc, il y a cette entrée-là. Et puis, il y a l'entrée territoriale que j'évoquais ici, en particulier en Bretagne, où, avec les pôles de développement, il y a des liens directs avec les acteurs qui peuvent...
Les ADES, par exemple, c'est ça?
Oui, c'est ça, les ADES.
Association de développement de l'économie sociale et solidaire.
C'est ça, voilà.
Oui.
Effectivement, c'est aussi une question qui me semble intéressante, c'est que, encore une fois, on renvoie finalement la question et la difficulté à un individu, à son inventivité, à sa capacité à prendre des initiatives. Les projets de l'ESS sont des projets qui sont souvent portés collectivement, et le collectif, ça aide à surmonter les difficultés, ça aide à trouver des solutions ensemble, en commun. Si on prend le plan d'action européen de soutien à l'ESS, il y a en permanence une référence à cet entrepreneuriat social, y compris les exclus de cette société devraient développer des projets entrepreneuriaux, quels qu'ils soit d'ailleurs, qu'il n'ait pas de dimension d'utilité sociale, n'est pas un problème. C'est de l'entrepreneuriat social si c'est porté par des gens exclus. Donc on demande aux exclus de monter eux-mêmes leur propre projet avec une viabilité économique pour créer leur propre emploi. C'est pas cette dynamique-là. La dynamique de l'ESS, c'est une dynamique qui se construit sur des territoires, entre des gens qui entrent en réseau, qui s'entraident mutuellement dans la mise en place du projet. Et on peut y trouver des associations, des coopératives, mais c'est pas toujours facile de structurer son projet sous forme coopérative, par exemple. C'est difficile, il faut embarquer tout un collectif, savoir juridiquement comment l'instituer. C'est pas toujours facile de monter une association parce qu'on peut pas être employé de l'association qu'on va... Donc il faut trouver collectivement ces dynamiques et s'inscrire dans ces dynamiques, si on oublie évidemment de l'autre côté des possibilités dans l'économie dont a parlé mon collègue et ami Melaine, des dynamiques d'autosatisfaction, d'autosubsistance qui sont quand même de plus en plus nombreuses également, hein, qui permettent à des gens de gérer des jardins partagés collectivement, de monter des tiers-lieux, comme ça avait pu se faire par exemple dans la petite enfance avec des parents qui montaient des collectifs enfants-parents professionnels et des crèches parentales.
On parle depuis le début de l'émission de collaboration, collaboration entre les acteurs, les structures, et puis collaboration entre les générations aussi. Melaine, vous me parliez de cette structure du crédit coopératif qui représenterait pour vous la relève. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Relève peut-être pour la génération que je représente, celle des étudiants. Je suis ici représentant de Radio U. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce crédit coopératif? En quoi ça consiste?
Alors, pour préciser un tout petit peu les choses, quand on organise des rencontres de ce type qui réunissent de nombreux et nombreux chercheurs, et en plus ici articulés avec l'Assemblée Générale Annuelle de la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de Bretagne, il faut nourrir les gens, etc. Donc, il y a en effet un marché, pour le dire de cette manière-là. Mais bon, en tout cas, il y a des ressources. Et un de nos financeurs historiques est la Fondation Crédit Coopératif. Et les enjeux actuels de cette fondation sont de nourrir un imaginaire pour demain. Donc là, nous sommes bien évidemment au cœur du sujet. Hein. Un imaginaire qui nous amène vers l'intégration du vivant à tous ces mondes possibles. Et pour que demain se réalise, il faut une relève générationnelle. Et donc cette relève générationnelle, comme je vous demandais pour préparer un peu l'émission, comme on dit souvent en plateau, les auditeurs de cette émission, ce sont des étudiants. Généralement, pas systématiquement, les étudiants sont jeunes. C'est aussi pour ça qu'on forme les étudiants d'une certaine manière et de manière pluraliste à l'économie sociale et solidaire, pas à l'entrepreneuriat social et à monter des social business pour vous en sortir dans la vie en étant des superman champions, mais plutôt en sachant monter des projets collectifs. Et de ce fait, la jeunesse est pour nous un enjeu particulier, et y compris du coup pour ce financeur qui... Mais comme les enseignants-chercheurs, certains partiront à la retraite à un moment donné, quelle est la relève aussi en termes d'enseignement et de recherche?
Et puis, on parlait de lecture politique, mais là, de ce que vous nous dites, vous parlez de rapport au vivant. En réalité, c'est aussi un engagement plutôt de nature philosophique. C'est une façon d'être au monde, pour reprendre une expression qu'on utilise beaucoup et qui est un peu galvaudée. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet engagement philosophique qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire?
En fait, si on regarde ces enjeux écologiques, ils sont abordés et traités depuis plusieurs rencontres. Alors, on a d'abord utilisé le concept de développement durable pour le critiquer, pour montrer que ce concept n'était pas suffisant pour penser finalement la radicalité de ce qu'on appellerait aujourd'hui la bifurcation nécessaire pour relever véritablement les enjeux écologiques, et que le rapport Brundtland n'avait pas suffi finalement à défendre ou à faire prendre en considération. Ensuite, on a eu des rencontres à Bordeaux qui ont porté sur les enjeux de transition. Alors là, évidemment aussi, il a quand même été rappelé que cette question de la transition pose problème et problématique. Et du coup, avec mon collègue Melaine, moyenne. C'est vrai qu'à Metz, quand on s'est reposé cette question en l'élargissant à l'ensemble des enjeux, des défis politiques pour l'ESS, nous on a aussi travaillé la question justement de prendre en considération plus radicalement ces enjeux écologiques, et il nous a semblé qu'ici, un corpus théorique qui était peu mobilisé par les chercheurs sur l'ESS, qui est celui donc autour des penseurs de Bruno Latour, et notamment de ceux qu'on appelle, qui défendent cette approche par le vivant, et notamment on pense à Baptiste Morisot et Vinciane Desprez, en revisitant finalement leur corpus d'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec l'ESS sur différentes dimensions. Et donc ces dimensions, on a cherché à les systématiser, à les comprendre plus systématiquement, et ça nous a surtout ouvert à cette idée que, au fond, ce qu'il faut penser, c'est cette importance centrale des relations de réciprocité, qui sont des relations de don contre don, qui ne sont pas des relations d'échange marchand, qui ne sont pas des relations qui cherchent utilitaire à simplement ramener la relation avec les autres dans un échange qui permet d'avoir des échanges gagnant-gagnant. L'échange par le don, c'est un échange qui, au contraire, repose sur l'endettement mutuel et cette volonté de construire cette réciprocité permanente. Et donc, il nous a semblé que ça, c'est central pour comprendre l'économie, et Polanyi le raconte évidemment depuis bien longtemps, en reprenant d'ailleurs Aristote, il nous a semblé qu'au final, c'est ce qui a présidé au développement de la solidarité instituée avec la mise en place des systèmes de sécurité sociale et de toutes les politiques sociales après les crises des années 30, et que ça a permis d'élargir finalement cette réciprocité à tous, hein. Et aujourd'hui, il s'agirait d'élargir cette réciprocité, y compris à ceux qu'on peut qualifier de vivants non humains, hein, qui aussi doivent rentrer dans cette chaîne finalement d'engagement réciproque pour se protéger les uns les autres.
Vous n'avez pas invité Olivier Hamant à venir parler de robustesse aussi, j'imagine, dans ces rencontres? Non, il n'est pas là.
Non.
Il est souvent là. Je pense qu'on peut, s'arrêter là. On va vous remercier pour ces échanges très riches. C'était donc une émission qui était proposée conjointement par Radio U et Transistor. Vous pourrez la réécouter sur nos ondes, vous pourrez la retrouver sur nos sites internet et également sans doute sur d'autres radios du réseau de la CORLAB. La CORLAB, c'est la fédération, encore de l'ESS, hein, Fédération des radios associatives bretonnes. Merci beaucoup à tous et à toutes.
Merci.
Et merci à Romain Barbot, oui, pour sa réalisation technique.
Radio U, 100.fm à Brest.
C'était une émission Radio U et Radio Transistor, enregistrée en public le jeudi 21 mai à la Fac de Lettres et Sciences Humaines de l'UBO. Une table ronde en public organisée dans le cadre des 15e rencontres du RIESS 2026. Rencontre du réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire. Pour poursuivre cette quotidienne, je vous propose d'écouter la première chronique de Zoé, notre plus jeune bénévole. Elle décortique trois lettres qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
10 signes qui montrent que vous êtes HPI sans le savoir. Les profs disent qu'il s'ennuie. Apparemment, il serait HPI. Il en avance pour son âge. C'est sûrement un HPI. HPI. Trois lettres que l'on entend de plus en plus, que ce soit dans les médias, les écoles ou dans de simples discussions. Mais de quoi s'agit-il vraiment? HPI désigne les personnes qui possèdent une intelligence cognitive très fortement supérieure à la moyenne. Une personne l'est lorsqu'elle a un QI supérieur à 130, selon Santé Magazine. D'après France Info, les HPI représentent jusqu'à 2,5% de la population française, sans compter les personnes qui ignorent qu'elles le sont, ou celles ne souhaitant pas se faire diagnostiquer. Encore très méconnues il y a peu de temps, les personnes HPI peuvent être identifiées dès l'enfance, mais aussi parfois à l'âge adulte. Mais quels sont les signes pour savoir si on est HPI? Je cite. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne dans Santé Magazine. Les personnes HPI possèdent une fluidité de la pensée, dite en arborescence, leur permettant de tirer des conclusions, de faire des liens et des associations, avec une grande capacité de résolution de problèmes. Chaque idée qui traverse leur esprit est comme une cascade de réflexions, invoquant sans cesse de nouvelles idées. On retrouve aussi chez ces personnes une très bonne mémoire, un vocabulaire riche et beaucoup d'empathie. Pourtant, de nombreuses personnes HPI souffrent d'un manque d'estime de soi, souvent dû à un perfectionnisme très développé. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus reconnus et entendus, notamment grâce à des séries, comme HPI diffusées sur TF1, La série a connu un véritable succès et a participé à faire connaître les HPI à grande échelle. Mais comme elle le montre, les personnes HPI sont l'objet de plusieurs mythes et croyances qui leur collent à la peau. Sont-ils super intelligents, surdoués, super émotifs? Être HPI, est-ce comme un super pouvoir? Le personnage de Morgan Alvaro, incarné par Audrey Fleurot dans la série TF1, pourrait nous le faire croire. Une femme, ayant presque des dons de mentaliste, mais aussi la capacité de remarquer et d'analyser le moindre détail. Mais Johanna Rosenblum nous rappelle que cela est bien loin de la réalité. Il n'existe pas de profil type des HPI. Pour certains, leur haut potentiel intellectuel devient un atout. Pour d'autres, cela peut engendrer une souffrance due à une réflexion continue. Malgré tout, la psychologue conclut en déclarant que certains aspects sont bien retranscrits dans la série. Par exemple, la curiosité ou la difficulté dans le lien social. Pour conclure, avec des signes finalement très variés et aux contours peu nets, il peut être tentant de voir des personnes HPI partout autour de soi. Pourtant, je le rappelle, seulement 2,5% de la population l'est réellement. Si vous avez des soupçons, sur vous ou un proche, consultez. Pour être diagnostiqué, il faut réaliser un test officiel auprès d'un professionnel. Et même si être HPI ne nécessite pas toujours un suivi, le savoir peut être utile dans certains cas. Par exemple, lorsqu'un enfant est en échec scolaire à cause d'un haut potentiel non diagnostiqué. Et oui, les HPI ne sont pas toujours les premiers de la classe. À l'image d'Albert Einstein, qui malgré un QI estimé entre 160 et 190, était connu pour être en difficulté à l'école. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les HPI, vous pouvez lire la BD Zebraska, signé Éric Corberan et Ludo Boréchi, adapté du roman du même titre d'Isabelle Barry. À travers cette BD, l'auteur tente de nous en apprendre davantage sur les HPI et leur détection.